Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Bac FM 106.1. Je m'appelle Amélie et je suis élève en classe de première scientifique au lycée Raoul Follereau. Je suis en compagnie de Léa, également en première scientifique, et d'Edith, qui est en classe de seconde. Mais je vais laisser Edith vous expliquer la raison de notre présence dans les studios de Bac FM.
Alors, nous nous retrouvons ici pour une deuxième émission spéciale Fête de la Science, puisque c'est la 21e édition de cette manifestation qui a lieu dans toute la France avec pour objectif de mettre la science à la portée de tous, petits et grands. Nous avons déjà pu interviewer tout à l'heure Monsieur Jean-Marc Ginoux à propos de sa conférence sur les découvertes d'Henri Poincaré.
Effectivement, Edith, et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Monsieur Vincent Coudet du Foresto, qui est astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Bonjour Monsieur Vincent Coudet du Foresto.
Bonjour.
Alors, que pensez-vous de l'existence de cette fête de la science et des différentes manifestations proposées à cette occasion?
J'en pense le plus grand bien. J'aime beaucoup l'association des mots fête et science, parce que très souvent, et peut-être surtout au lycée, les gens ont une vision de la science comme de quelque chose d'assez austère. Et en fait, c'est tout sauf ça, c'est très souvent une grande aventure humaine. Et avoir l'occasion de sortir de son laboratoire, de parler de ce qu'on fait, d'aller rencontrer des gens, peut-être de susciter des vocations, c'est toujours quelque chose de très agréable et que l'on fait avec beaucoup de plaisir.
Participez-vous souvent à ce type d'événement ?
À chaque fois que c'est possible, et en fait, en pratique, ça se produit chaque année, donc... chaque année, je vais dans un endroit ou un autre pour parler de mon métier ou de mes recherches. Et à Nevers en particulier, c'est la deuxième fois que je reviens au lycée.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier ?
Alors, à la base, je suis chercheur, astrophysicien, donc je m'intéresse à l'univers, donc c'est un bien grand mot, et en particulier à le domaine qui m'intéresse, c'est celui de comprendre comment la vie a pu apparaître dans l'univers et où elle peut exister dans l'univers. Un chercheur, c'est quelqu'un qui va aller interroger la nature. C'est un peu comme quelqu'un qui pratique une enquête policière vis-à-vis d'une énigme. Il va essayer d'amasser un maximum d'indices auprès de la nature. Et il va essayer de reconstituer l'histoire de ce qui s'est passé et puis ensuite d'aller vérifier auprès d'autres indices si l'histoire qu'il a reconstituée correspond à la réalité. Et donc, on va chercher de l'information auprès de la nature. Ça, c'est la première partie de mon métier de chercheur. Et la deuxième partie, c'est de la transmettre cette information, parce que il n'est pas de recherche utile qui ne puisse être transmise après à la société, et on la transmet soit directement au public lors de manifestations comme la fête de la science, soit via ce qu'on appelle des médiateurs scientifiques qui peuvent être des journalistes scientifiques, qui peuvent être des animateurs scientifiques et qui permettent ensuite de diffuser cette culture scientifique auprès du public.
Et qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ?
Ce qui me passionne, c'est le fait justement d'être confronté à une énigme et d'avoir la possibilité de contribuer à résoudre cette énigme.
Quel a été l'élément déclencheur dans vos études sur le choix de ce métier ?
Ah, il n'y a pas eu d'élément déclencheur parce que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être astronome. Donc j'ai peut-être eu vaguement ma phase dinosaure à l'âge de 5 ans. Ça a duré 2 mois, mais grosso modo, j'ai toujours été passionné par les étoiles et donc j'ai toujours rêvé d'être astronome et j'ai étudié dans cet objectif-là. J'étais assez monomaniaque, il faut bien le dire. Mais c'est un grand privilège de faire adulte le métier dont on a rêvé quand on était enfant et jeune.
Et est-ce que vous voyagez beaucoup à travers le monde pour pouvoir accéder aux grands observatoires, ou votre travail se déroule-t-il principalement à l'Observatoire de Paris ?
Alors, on se déplace beaucoup dans la recherche, d'une part effectivement en astronomie pour aller observer, parce que bien que l'Observatoire de Paris, qui est un centre de recherche, s'appelle Observatoire, et bien qu'il y ait des télescopes, ces télescopes ont été construits il y a 200 ou 300 ans, à l'époque où on pouvait envisager de regarder le ciel depuis Paris. Maintenant, c'est trop difficile parce que Paris éclaire trop le ciel, et donc il faut effectivement aller placer les télescopes dans des endroits assez isolés pour que le ciel soit suffisamment noir, et on doit y aller. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on voyage. La deuxième raison, c'est que il y a relativement peu d'astronomes dans le monde, environ 10 000. Et donc, pour pouvoir discuter avec des collègues, on est répartis un peu partout. Et ce qui est très important en recherche, c'est de pouvoir confronter ses idées avec celles des collègues. Et donc, il est nécessaire souvent d'aller les rencontrer dans des conférences scientifiques. Maintenant, il est vrai que depuis qu'existent, disons, les nouvelles technologies de communication comme Internet, on a moins le besoin de voyager physiquement par rapport à ce qui se produisait il y a quelques années. Et de fait, par exemple, il y a des collègues avec qui je collabore, je discute, que je n'ai pratiquement jamais rencontré. On échange des mails, on se fait des vidéoconférences, etc. Et on peut arriver à avoir des échanges intellectuels sans véritablement se rencontrer physiquement. Et de plus en plus aussi, les observations sont menées à distance. Et donc on a de moins en moins le besoin d'aller physiquement sur ces observatoires-là, sauf si on contribue à la réalisation de l'instrument.
Et quels sont les instruments d'observation ou de mesure que vous utilisez au sein de ces observatoires ?
Alors, pour ce qui me concerne, j'ai une spécialité puisque je développe une catégorie d'instruments qui portent un nom barbare qu'on appelle des interféromètres. Ce sont en fait des instruments qui permettent de relier des télescopes entre eux de manière synchronisée et d'aller simuler le comportement d'un télescope unique dont la taille serait la distance entre les télescopes individuels.
Abordons maintenant le sujet de votre conférence intitulée « Les yeux de la Terre ». Pourquoi continue-t-on encore aujourd'hui à scruter l'univers, le cosmos qui nous entoure ?
Parce que tout reste à découvrir. Plus on regarde l'univers et plus on réalise qu'il y a beaucoup de choses à comprendre à propos de l'univers. Et les questions que l'on se pose maintenant, elles ont peut-être évolué par rapport à celles qu'il y avait dans le passé, mais elles restent encore tout à fait ici. Comment s'est formé l'univers ? Comment se sont formées les étoiles ? Comment se sont formées les planètes ? Comment s'est formée la Terre ? D'où vient la vie ? Qu'est-ce que la vie ? Y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers ? Toutes ces questions-là, on commence à avoir des éléments de réponse, mais on est loin d'avoir la réponse complète.
Alors, d'après vous, quelles sont les compétences que doit avoir un lycéen d'aujourd'hui pour poursuivre des études post-bac dans le domaine de l'astronomie ?
Alors, si le lycéen veut faire de la recherche en astronomie, c'est clairement une science, donc il faut qu'il fasse des études scientifiques. Donc, j'imagine probablement une première, une terminale S, et ensuite qu'il s'oriente soit vers la voie de l'université, donc en faisant des études scientifiques à l'université, soit il peut passer aussi par la filière des grandes écoles. Et les deux filières se rejoignent au niveau du master, donc c'est à bac plus 4. Il devra faire un master d'astrophysique. Donc on n'enseigne pas l'astronomie directement juste après le bac. Il faut d'abord faire des mathématiques et de la physique. Et puis une fois qu'on a fait le master, on se lance dans une thèse. Donc ce sont des études très longues, puisque la thèse c'est bac plus 7, bac plus 8. Enfin, je vous rassure, quand on en est à la thèse, on n'est plus assis à écouter un professeur 8 heures par jour. Donc ça, en fait, une thèse c'est pratiquement comme si on était un apprenti chercheur, c'est-à-dire qu'on mène l'activité d'un chercheur, simplement on est encadré par des chercheurs confirmés. Et puis c'est seulement à la fin de la thèse qu'on obtient le diplôme de doctorat qui permet d'avoir des postes de chercheur. Cela étant, on peut être intéressé par l'astronomie sans avoir nécessairement un goût scientifique ou des capacités scientifiques. Et il y a d'autres métiers liés à l'astronomie qui ne nécessitent pas forcément des compétences scientifiques particulières. Je pense à tous les gens qui font de la médiation scientifique. Ce sont des gens, par exemple, qui vont... Surtout, les compétences qu'on va leur demander, c'est d'être capable de raconter quelque chose. C'est-à-dire de se faire expliquer, peut-être par les chercheurs, d'une manière un petit peu absconse, le sujet de leur recherche, d'être capable de comprendre la manière dont il faudrait le formuler pour que ce soit compréhensible par le public. Donc là, on a besoin de gens qui sont, à la limite, plutôt littéraires. Voilà, donc le message, c'est que on peut, si on est passionné par l'astronomie, mais qu'on n'est pas bon pour les sciences, faut pas désespérer, c'est... Clairement, à ce moment-là, on n'est pas fait pour la recherche, mais il y a beaucoup d'autres métiers liés à l'astronomie qui ne sont pas forcément des métiers purement scientifiques.
Bien, merci Vincent Coudet du Foresto d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette fête de la science au sein du lycée Raoul Follereau.
Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés sur BAC FM 106.1.
Nous nous retrouvons vers 15h pour d'autres interviews de scientifiques. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas trop tard pour assister aux conférences de cet après-midi qui aborderont les thèmes suivants. La physique et le phénomène naturel, les nanotechnologies et la chimie des pneumatiques. Au revoir Vincent Coudet du Foresto.
Au revoir et merci.